Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV, les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Il est 9h41 sur France Inter et je suis très heureuse de retrouver l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Canada, Allemagne, Bénin, Cameroun, France, Italie, dans tous les pays, des sœurs, des nonnes, de très jeunes novices sont abusées sexuellement par des prêtres. Et ce, dans un silence assourdissant. L'enquête glaçante que diffusera Arte demain soir ne pointe pas des défiances isolées et masquées par l'Église, mais un système qui érige la domination masculine en dogme tout puissant et indépassable. Vous découvrirez des femmes ayant fait vœu de chasteté, purement et simplement marchandisées dans les communautés du tiers-monde, mais à Rome également, dans l'enceinte du Saint-Siège, où des religieuses sont les proies de leurs guides spirituels. Quel que soit leur âge et leur culture, toutes sont frappées par la même honte, tandis que leurs agresseurs jouissent d'une scandaleuse impunité.
L'Instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Il faut savoir que quand un prêtre confesse et qu'on arrive au moment de l'absolution, le prêtre agit in persona Christi. En personne de Dieu. Je me suis toujours dit, quand il posait ses gestes, il agit au nom de Dieu. Donc je n'ai pas de questions à me poser, c'est Dieu qui veut ça pour moi. Ça se passait en plus dans une chapelle, donc il n'y avait pas de remise en question à avoir.
Elle était toute jeune, elle avait rejoint la famille Saint-Jean pour approfondir sa foi. Elle a tenté une trentaine de fois de se suicider. Ni la justice cléricale, ni la justice française n'ont condamné ses agresseurs. Mes invités sont Éric Quintin et Elisabeth Drévillon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Une troisième journaliste co-signe avec vous cette enquête. Elle s'appelle Marie-Pierre Rimbaud, religieuse abusée. L'autre scandale de l'Église, l'autre évidemment fait référence à la pédophilie que l'on a énormément médiatisée ces dernières années, ce qui n'est pas le cas de ce dont on va parler ce matin, est diffusé donc demain soir sur Arte. Alors, à travers le témoignage de Michel France, celui par lequel on va entrer dans ce dossier vertigineux, Michel France est entré en religion à la fin des années 60 en France, vous ouvrez un dossier tentaculaire. Pour Michel France, ça commence chez les Carmélites, sous la coupe du père Marie-Dominique, qu'il envoie ensuite dans un prieuré assez éloigné, mais dont son frère, le père Thomas, est le directeur spirituel. Tous deux font subir la même chose à cette religieuse. Alors, je vais vous diffuser un extrait du documentaire que vous entendrez demain soir sur Arte. Beaucoup d'enfants sont à la maison car c'est les vacances scolaires cette semaine pour une partie d'entre vous. Éloignez-les du poste ou baissez un tout petit peu le son.
Je lui ai obéi, je me suis déshabillée, je me suis étendue sur le lit et il s'est étendu sur moi. Le père Thomas pratiquait ce dont je sais maintenant que ça s'appelle le cunnilinguisme. Et puis moi, je faisais déjà à l'époque des fellations au père Marie-Dominique, à sa demande, non pas verbale, mais par geste, par signe. Et donc j'ai fait la même chose avec le père Thomas. Ce qui n'était pas très ragoûtant, parce que c'était un homme déjà âgé, et qu'il avait une hygiène très problématique, il ne sentait pas très bon. Mais je prenais ça un peu comme un exercice de pénitence.
Elisabeth Drévillon, Éric Quintin, Michel France s'est cru seul pendant très longtemps. Éric Quintin.
C'est une femme effectivement qui a mis très longtemps à parler et qui est au cœur, en tout cas, qui ouvre ce documentaire, parce qu'elle est très symbolique de toutes les femmes qui ont subi ces abus. Elle est symbolique dans sa transparence, dans la force de sa voix, de sa parole, cette parole qui a été tue pendant autant d'années et qui aujourd'hui s'exprime. C'est pour ça qu'elle dit les choses de manière qui peuvent paraître très crues, mais qui sont l'extrême vérité, l'extrême réalité de la violence qu'elle a subie et que toutes les autres femmes comme elle, religieuses comme elle, ont subie de par le monde.
Elisabeth Drévillon, Michel France, elle a été aussi la proie de deux frères, je l'ai dit, le père Marie-Dominique et le père Thomas, qui ont tous deux érigé leur propre perversion en système, chacun dans leur communauté.
Oui, c'est la preuve même du système, effectivement, c'est totalement systémique, et puis c'est surtout aussi cette espèce de silence, cette chape de plomb permanente que l'Église met sur, c'est religieuse.
Alors on va en reparler évidemment, mais ces deux communautés, il faut en dire un mot, puis on va laisser ensuite les auditeurs le découvrir sur Arte. Il y a la communauté de l'Arche, hein, qui était sous la coupe du père Thomas, et la famille Saint-Jean sous la coupe du père Marie-Dominique. Pouvez-nous en dire quelques mots?
Alors la communauté Saint-Jean, ça fait partie de ces nouvelles communautés qui ont été mises en place par le pape Jean-Paul II. L'Église est en perte de vitesse à cette époque-là. C'est un peu la nouvelle évangélisation, le renouveau. Et c'est nous sommes tous frères, tous sœurs, et on s'aime. Donc c'est la mise en place d'un dogme qui est terrible, de l'amour-amitié, et au nom de la spiritualité.
C'est effectivement le renouveau charismatique voulu et porté par Jean-Paul II, qui a vu émerger toute une série de communautés. J'allais dire que effectivement la communauté Saint-Jean, et il y en a bien d'autres, mais par l'intermédiaire de son créateur, a développé une théorie qui a rendu possible et systémique ces abus sexuels. C'est-à-dire que on se sert, et c'est ce que démontre et ce qu'on raconte dans notre documentaire, on se sert effectivement des évangiles pour permettre à l'homme d'établir son pouvoir et d'imposer son autorité, qui fait que ces femmes ne peuvent plus ni dire non, ni même avoir encore conscience d'elles-mêmes, de leur corps, et elles sont totalement abusées.
Et vous montrerez dans ce film d'ailleurs que chacun de ces deux pères, qui jouissaient d'une réputation de saint homme, de leur côté, ont formé des prêtres, des jeunes prêtres à leur image. Justement,
ça se répète, c'est ça.
Ça se répète et ça se transmet.
800 prêtres formés quand même.
800 prêtres.
Donc on peut imaginer 800 prêtres qui sont partis dans le monde entier s'occuper également de religieux.
Alors justement, mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire que c'est important de.
C'est très important, et c'est ce qu'on va montrer justement, c'est que vous êtes parti jusqu'au Canada rencontrer une femme assez remarquable, une religieuse psychothérapeute qui propose
sexologue.
Oui, une thérapie choc à des sœurs abusées, à des femmes trop longtemps murées dans le silence ravageur que vous évoquiez, Elisabeth Drévillon.
Bon, mettre ici qui sont les personnes qui t'ont fait terriblement mal et de façon très injuste.
C'est la mort.
Continue. Dis ce qu'ils sont.
C'est des tueurs.
C'est des tueurs. Continue.
Qui m'empêchent de le faire, ça serait sortir de mon rôle de victime.
Justement. Vas-tu rester victime? Vas-y.
Là, c'est le poignard que j'y mets.
Mais
le poignard, je le tue. Je le tue, tabarnak.
Vas-y.
Hurler pour sortir du silence. Vas-y. Hurler pour sortir du silence, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre enquête. Dénoncer un prêtre, c'est profaner l'Église.
Exactement, c'est le pire des crimes quand on est entré dans les ordres et qu'on a fait vœu d'obéissance. Oui. Et c'est ce qui est rappelé beaucoup à la communauté des femmes religieuses, c'est qu'elles doivent obéir et qu'elles sont effectivement traitées comme des... Tout le monde est serviteur de Dieu dans l'Église, mais elles sont quasiment traitées comme des servantes. Et là, il y a eu un glissement qui n'est pas que sémantique, puisque ça se traduit dans les faits, où elles sont au service d'eux et que ça va jusqu'à être au service des envies et de la toute-puissance des prêtres.
Alors, Elisabeth Drévillon, vous allez également enquêter en Afrique. Je dois dire que là, on est face à des séquences qui laissent totalement sans voix. Témoignage d'une sœur africaine qui d'ailleurs se réfugie au Bénin, qu'elle n'est pas du Bénin, elle n'est pas béninoise, mais simplement pour pouvoir parler et dénoncer sa communauté. Dès le noviciat, de très jeunes filles sont obligées de coucher avec des prêtres. Elle précise européens. Ce sont des prêtres européens qui imposent cela à des novices africaines.
Oui, parce qu'elles sont, leur chemin spirituel est guidé souvent par des prêtres européens.
C'est ça.
Ce sont des missionnaires, donc elles suivent des prêtres européens dans leur cheminement spirituel.
Voilà. Alors, on va l'écouter et on va voir le rôle que jouent les mères supérieures, les sœurs supérieures, dans ce qu'on peut qualifier purement et simplement de proxénétisme.
Les supérieures s'attendent avec les prêtres. Les prêtres leur donnent l'argent, une somme d'argent. Les supérieures livrent les sœurs chez le prêtre. Elles montrent à la religieuse comme si c'est un travail pour la congrégation. Mais entre-temps, quand la sœur arrive là, elle se rend compte que c'est la prostitution.
Prostitution à grande échelle, Elisabeth Grévion.
Oui, prostitution à grande échelle. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que la plupart de ces jeunes novices qui deviennent par la suite religieuses sortent de leur village. Elles sont pauvres. Elles ont donc le gîte et le couvert offert par la religion, en quelque sorte. Elles sont croyantes. Ça n'enlève rien à tout ça. Et donc, si tu veux que je t'aide, si tu veux que je t'aide, j'aide ta famille, si tu veux que je soigne ton frère malade, toi qui n'as rien, eh bien, il faut payer. Et donc, là, c'est de la prostitution, mais orchestrée par les mères supérieures. C'est-à-dire que les prêtres donnent aussi de l'argent dans les au couvent. Et c'est là que tout se met en place.
Alors c'est là que tout se met en place et c'est là que tout se prolonge et on en est totalement effaré. On pourrait imaginer cela circonscrit dans le tiers-monde. Pas du tout.
Non, justement.
Pas du tout. Éric Quintin, justement.
Sur les mères supérieures. Oui. Pour le coup, c'est un système effectivement totalement horrible et quasiment... en place en Afrique, ça existe en Europe. Ça a existé en Europe. On a des témoignages qui nous ont raconté comment les mères supérieures fermaient les yeux. Comment c'est le cas de Doris, cette jeune Allemande.
Eh bien, j'y viens justement. Ça se perpétue jusqu'au cœur du Saint-Siège. Il faut que vous racontiez ce qui se passe à Rome parce que c'est ce qui ouvre votre documentaire. À Rome, donc, où 30 000 religieux viennent au Saint-Siège pour étudier la théologie, pour approfondir leur foi. 80% de femmes, certaines sont très jeunes. Il faut que vous racontiez ce qui se passe à Rome.
À Rome, il y a différentes communautés. Oui. Il y a ces jeunes religieuses venues d'Afrique ou du tiers-monde, mais il y a
qui
aussi...
Qui viennent sans rien, qui n'ont rien, qui arrivent à Rome sans un sou. Donc, pour survivre, eh bien, on les entraîne. Elles sont prises en protection par des prêtres et c'est là qu'elles couchent avec. Quoi.
Et c'est ce que dénonce effectivement une sœur africaine qui s'appelle Rita Mbushu Kongo.
Qui dérange.
Qui n'a plus jamais parlé.
Comme la plupart d'ailleurs de vos témoins. Hein. Ce sont des gens qui dérangent, qu'on exclut de leur communauté, qu'on éloigne.
Toujours le même principe. Oui. Hein. C'est le silence et l'éloignement. Comme ça qu'on règle le problème. C'est-à-dire qu'on ne règle pas le problème, mais on l'éloigne. Et c'est quand même...
L'omerta, c'est le maître mot du Vatican, de toute façon. Oui. Hein, ils ne survivent qu'avec ça. Le silence apaise tout.
Alors, retour en France, pour les victimes de la communauté de l'Arche dont on parlait tout à l'heure, 3 évêques se déplacent, prononcent une messe de mea culpa, c'est un tournant historique, c'est une première dans notre pays. On se demande comment vous avez récupéré ces images.
Je vais vous expliquer.
Moi, comme évêque chargé d'accompagner l'Arche internationale, évêque qui est lié à tout prêtre dans l'Église catholique par l'ordination aujourd'hui, je demande pardon. Comme vous le savez, l'Église a honte, terriblement honte de ses actes.
Alors oui, c'est un tournant historique et en même temps, ce que vous déplorez de manière extrêmement ferme dans le film, c'est que tout cela s'est passé à huis clos.
Toujours
pas
le même
de
secret.
Publicité.
Exactement. Et ce sont des images, avec la confiance tissée avec les différentes victimes, puisqu'elles sont 14 au sein de l'Arche, on a réussi à être invité, on s'est invité à cette cérémonie. Et les images dont vous parlez, en fait, sont des images qui étaient destinées aux victimes qui ne pouvaient pas être présentes. Soit parce qu'elles étaient loin, géographiquement parlant, soit que c'était insupportable pour elles d'être face, même si c'était une messe de réparation, c'est toute l'ambiguïté, c'est qu'est-ce qu'on répare réellement? Est-ce qu'on répare effectivement l'autorité de l'Église ou est-ce qu'on répare véritablement les victimes? Et là, de par une fois encore, le fait que ces images n'étaient pas destinées à être publiques, cette messe n'était pas destinée à être publique, on montre bien que...
On referme le couvercle.
Et une fois de plus, les choses peuvent continuer. Parce que c'est ça le plus grave. C'est que de cette façon-là, les choses continuent.
Alors, Elisabeth Grévion, il y a aussi une jeune Allemande à qui il est arrivé à Rome dans une maison de très jeunes sœurs qui venaient de prononcer leur vœu, plusieurs mois de viol. Plusieurs mois de viol commis par son guide spirituel. Elle a voulu quitter l'église. Elle a voulu quitter sa communauté. Sa sœur supérieure a acheté son silence. Combien ?
3000 euros.
3000 euros.
3000 euros parce qu'elle n'avait rien en fait. Donc elle devait reconstruire sa vie. Donc elle a accepté ces 3000 euros. Mmh.
Son agresseur a reconnu les faits.
Oui. Il est toujours en place.
Dans des maisons, déplacé, ouais. de femmes, dans ouais. des maisons de jeunes femmes. Dans des maisons de jeunes femmes. J'aimerais que vous nous racontiez la fin du père Thomas, les obsèques du père Marie-Dominique. Les obsèques du père Marie-Dominique. Ça a été un événement absolument...
À Lyon.
À Lyon. Sous les ordres de Monseigneur Barbarin.
Un événement, véritablement. Elle était orchestrée par Monseigneur Barbarin. Avec un mot du pape lui-même qui reconnaît le saint homme qui était effectivement le père Marie-Dominique Thomas.
Encore Monseigneur Barbarin.
Père Marie-Dominique.
Encore Monseigneur Barbarin. Ça fait beaucoup.
Et si on ajoute que effectivement un des prêtres
mais,
qui
mais
témoigne.
Mais je raconte ce qu'on voit sur vos images, hein, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Jean est pleine à craquer, la place devant la cathédrale, les obsèques sont retransmises sur des écrans. Grand géant.
Et plein de politiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont présents dans cette messe, et tout ça est très officiel. Mmh.
Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que au lieu de pointer l'obligation de chasteté et de célibat dans l'Église, qu'on pourrait imaginer être la matrice de ces déviances, vous, ce n'est pas cela que vous dénoncez. Finalement, vous dénoncez la toute-puissance patriarcale, la toute-puissance des hommes au sein de l'Église catholique,
oui,
Élisabeth Drévillon.
Oui, parce que les hommes sont considérés comme les représentants de Dieu. À partir du moment où ils sont les représentants de Dieu sur Terre, les religieuses ne peuvent que leur obéir, parce qu'elles ne sont pas les représentantes de Dieu sur Terre. Elles sont les servantes de ces représentants. Donc le prêtre fait ce qu'il veut de la religieuse.
Et
quand il le fait sur le cheminement spirituel, c'est ça qui est terrible. C'est que l'économie du salut dont parle Constance en Afrique...
C'est terrifiant.
C'est « je vais te guider » dans ta spiritualité, et tu vas faire, pour la première fois, parce que tu n'as pas le droit de le faire ailleurs, je vais t'amener sur le chemin de l'amour.
Et au-delà, effectivement, bien sûr, cette toute puissance des hommes, c'est la place des femmes dans cette église.
Absolument.
Qui est questionnée. C'est pour aller plus loin, c'est que je crois que si cette église doit évoluer, il faut que les femmes prennent toute leur place, et que c'est l'expression de ce nouveau pouvoir, ou en tout cas de revendiquer une véritable place pour ne plus simplement être objet au sein de cette Église
catholique.
Alors
vous allez plus loin, c'est-à-dire que au terme de votre enquête, vous transmettez au Saint-Siège la totalité des informations qui constituent le socle de ce documentaire, et vous demandez au pape de recevoir les victimes. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Alors moi, j'ai pendant 8 mois, j'ai négocié avec eux. Nous avons joué la transparence. Nous leur avons expliqué tout ce que nous avions et tous les témoins que nous avions dans notre documentaire. Sincèrement, on était à deux doigts. C'était presque oui. Et au dernier moment, comme toujours, nous voulons bien recevoir les religieuses, mais vous restez à la porte.
Mais c'est dans
encore une fois de plus, dans le secret, dans le silence, dans l'omerta, tout ça c'est sous couvert.
Est-ce que les choses changent avec François? Est-ce que les choses changent avec François? Il y a une conférence épiscopale qui vient d'avoir lieu sur les violences sexuelles au sein de l'Église. Est-ce que la question des religieuses abusées a été évoquée, ou est-ce que ça n'a été consacré qu'à la pédophilie?
Pas du tout. Mais non. Il y a eu à un moment donné un rajout sur le titre de la conférence sur les adultes vulnérables. Donc déjà, les femmes sont des adultes vulnérables.
Ouais.
Chacun donnera son explication. Le problème, c'est que François semble être un progressiste, effectivement. Dans ses propos, on peut.
Il est d'ailleurs pour cela haï d'une certaine partie de l'Église.
Malheureusement, les conservateurs ont beaucoup plus de poids que les progressistes au sein du Vatican. Et il est entouré par les conservateurs qui le musellent en permanence.
Et je crois qu'effectivement, on voit bien les allers-retours que fait le pape entre un pas en avant vers le progrès, et il est rattrapé par cette frange effectivement réactionnaire. La messe, enfin l'homélie que le pape sur la place Saint-Pierre, où il traite effectivement ceux qui avortent de tueurs à gages, on voit bien que là, c'est de l'aller-retour permanent.
Merci beaucoup à tous les deux, religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église, est donc diffusé demain soir sur Arte. Merci d'être venu dans l'instant M, c'est la fin de l'émission. Merci. Bonjour Marie Sauvion.
Bonjour Sonia.
Grand bien vous fasse, c'est vous aujourd'hui. Alors, pourquoi les bébés pleurent?
Ben voilà, pourquoi les bébés pleurent? Alors, d'emblée, moi je vous dis parce qu'ils ont faim. Eh bien en fait, c'est pas toujours ça, évidemment.
Ils ont mal au ventre, ils ont mal aux dents.
Un bébé bien portant pleure au moins 2 heures par jour, et voire 3. Et parfois, on ne sait pas pourquoi il pleure. Parfois, il pleure pour pleurer. Et ben, on va essayer de décoder tout ça.
C'est un très beau sujet. C'est juste après les infos.